Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, une centaine de miliciens enterrent la hache de guerre dans le Tanganyika. Ces miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes auprès des autorités ce dimanche. Ils ont remis armes à feu, munitions et autres flèches au gouverneur de la province. Détail dans un instant. La prison centrale de Mbujima est confrontée au tuberculeux. 6 cas déjà détectés dans cette prison du Kasaï oriental. À l'origine, un dépistage organisé par le gouvernement provincial en début de mois de mai. Nous en parlons dans ce journal. Notre invitée est Madame Ruxandra Bourdekchou, spécialiste principale en gouvernance à la Banque mondiale. Elle va nous éclairer sur le projet Encore qui consiste à améliorer le recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC. Ça sera vers la fin de cette édition. Encore une fois, bonjour. D'abord cette question, Joseph Kabila est-il oui ou non arrivé ce week-end à Goma? En tout cas, l'arrivée de l'ancien président de la RDC dans ce coin du pays est confirmée. Dans plusieurs messages émis sur X dans la nuit de dimanche à ce lundi, les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 confirment l'information, exprimant d'ailleurs leur souhait d'un agréable séjour dans les zones libérées aux sénateurs à vie. Ces sources de la rébellion estiment que ce cadre politique fait un choix de revenir au pays par cette zone orientale plutôt que de rester en exil forcé. Toutefois, cette arrivée intervient environ 48 heures après son discours retransmis en direct vendredi 23 mai dernier sur YouTube. Un discours dans lequel l'ancien président congolais réaffirmait son intention de se rendre dans la capitale du Nord Kivu dans les jours à venir. Une capitale sous contrôle des rebelles et de leurs alliés rwandais. Nous y reviendrons. Nous restons dans le Nord Kivu pour parler de cette macabre découverte. Au moins 11 corps identifiés comme des civils ont été retrouvés sans vie dans la matinée de ce lundi au village de Kiringi dans le territoire de Masisi. Selon les sources des notabilités locales, ces corps sont déjà en état de putréfaction et elles estiment que ces personnes seraient des victimes collatérales d'un affrontement ayant opposé vendredi 23 mai dernier les éléments du M23 aux combattants Wazalendo dans ce village. Quelques maisons d'habitation avaient aussi été incendiées lors de ces attaques. Rappelons que durant les deux dernières semaines, plusieurs accrochages opposant les rebelles M23 au groupe Wazalendo ont été rapportés dans cette partie de Masisi, mais aussi dans le groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru, faisant des victimes parmi les civils. Et puis une centaine de miliciens enterrent la hache de guerre dans le Tanganyika. Ces miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes auprès des autorités ce dimanche. Dans ces miliciens, les responsables de ce groupe ont remis des armes à feu, des munitions, ainsi que des flèches au gouverneur de la province du Tanganyika. La cérémonie s'est déroulée au village Kasama, à 15 km de la ville de Kalemie. Ces ex-miliciens acceptent d'adhérer au programme de désarmement volontaire. Le reportage est signé Paulin Munanga.
Parmi ces armes, il y a 3 AK-47, une mitrailleuse, un fusil de chasse, des munitions et un lot de flèches. Signalons que c'est après plusieurs années de violence que ces ex-miliciens sous la direction de leur leader Bitonto ont accepté de déposer finalement les armes. Le gouverneur du Tanganyika s'est dit satisfait de cet acte de reddition et réitère son soutien à ces ex-combattants dans leur processus de réinsertion. Christian Kitungwa appelle les uns à l'adhésion au programme de la réserve armée de la défense et les autres à la réintégration communautaire et sociale. Le gouvernement provincial leur a remis un don de vivres et de non-vivres. Pour rappel, le groupe armé Fimbo na Fimbo a donné son accord en avril dernier pour adhérer au programme de désarmement volontaire. À cette occasion, le leader de cette milice, Michel Bitonto, avait rencontré les autorités de la province du Tanganyika dans le territoire de Kalemie. Signalons que ces ex-miliciens ont commis des atrocités dans plusieurs villages et localités du territoire de Kalemie, tels que Moulangé, Kok, Ki, Mwaka, Kambilo et tant d'autres. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Je le disais en titre, la prison centrale de Mbujimayi en proie à la tuberculose, 6 cas déjà détectés dans cette prison du Kassai oriental. À l'origine, un dépistage organisé par le gouvernement provincial en début de mois de mai. Le ministre provincial de la Santé souhaite que ces malades soient isolés pour arrêter la propagation de cette maladie dans ce milieu carcéral. Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après le ministre provincial de la Santé, le dépistage a été effectué avec le concours de la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose. Il ressort de cette opération que sur près de 500 détenus du centre pénitentiaire de Mbujimayi, 6 ont été déclarés positifs à la tuberculose. Le ministre propose que ces détenus malades soient isolés des autres pour éviter la propagation de cette maladie à la prison centrale. Contacté, la directrice de la maison carcérale affirme que les malades sont déjà pris en charge. Elle signale par ailleurs que d'autres malades gardés à l'hôpital en isolement avaient pris le large, abandonnant les soins ainsi que leurs effets. Signalons que c'est la troisième fois dans un espace de 8 ans que la prison centrale de Mbujimayi enregistre des cas de tuberculose. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Toujours dans le domaine de la santé, notez que la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale a été célébrée à sa manière à Butembo, au Nord Kivu. L'organisation Fistula Programme a sensibilisé une trentaine de femmes guéries de la fistule obstétricale venue de la ville de Butembo et d'Oicha. Cette activité s'inscrivait évidemment dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de cette maladie. Selon Dr Gabriel Mate Mouhini, médecin traitant à Fistula Hospital de Butembo, il s'agissait d'impliquer ces femmes dans la construction d'un avenir sans fistule au sein de la communauté. Il a été joint au téléphone par André Kitenge.
Nous avons réfléchi sur comment éliminer cette fistule obstétricale pour faire éviter aux autres femmes le désastre qu'elles font subir au quotidien des femmes vivant avec cette fistule obstétricale. Nous avons échangé comment on peut parvenir à construire un avenir sans fistule obstétricale. Pour que cette fistule soit éliminée, c'est à travers deux principales voies. La première voie, c'est soigner ou réparer toutes ces femmes qui survivent encore avec des fistules. Donc, nous devons identifier ces femmes-là dans la communauté. Nous devons les convaincre de venir se faire soigner pour qu'elles puissent retrouver leur dignité et retrouver leur sourire. Une autre voie, c'est maintenant la prévention. Pour la prévention, toutes les différentes couches de la communauté sont impliquées. Au niveau de la communauté, nous avons dit que nous devons décourager les grossesses précoces. Puisque une femme qui accouche avant 18 ans, elle court plusieurs dangers, notamment celui d'avoir une fistule obstétricale, puisqu'elle aura une grossesse à haut risque.
Au chapitre économie, le gouvernement central a débloqué tous les fonds nécessaires pour la réhabilitation des routes de Kinshasa. Pour se rassurer du lancement effectif des travaux, le ministre des Finances, Doudou Fouamba-Likoundé, a inspecté les travaux routiers et d'autres infrastructures dans la capitale ce week-end. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics, du gouverneur de Kinshasa et des responsables de l'OVD, Doudou Fouamba a parcouru plusieurs sites de l'est à l'ouest de la ville. Reportage Michel Kifindangoy.
De l'avenue du tourisme en plein asphaltage, à l'érosion Mbala à Badiading où les travaux de stabilisation reprennent, en passant par la réhabilitation de la route Sebo-Kimouenzagar, le ministre des Finances se rassure de l'utilisation effective de l'argent débloqué par le gouvernement pour la réfection de la voirie urbaine de Kinshasa. L'écurage des caniveaux a débuté sur l'avenue Université et des aménagements sont en cours sur la route Bypass pour fluidifier le trafic, constate Doudou Fouamba. Il a marché à pied entre des bonhommes et Mantankoumou à Tchangou pour vérifier personnellement la qualité et le rythme des travaux. Tout en saluant les avancées constatées, Doudou Fouamba souligne que plusieurs chantiers attendent encore d'être lancés. Il a insisté auprès du gouvernement provincial l'accélération des travaux en cours et lancé ceux des voies secondaires afin de désengorger la ville. Pour l'argentier national, les embouteillages et le manque d'infrastructures freinent le développement économique, réduisant les temps productifs des citoyens.
Direction Kasaï Central, la régie des eaux promet d'étendre son réseau de distribution d'eau avec d'autres projets à partir du mois d'août prochain. Son directeur général, qui est dans la suite de la première ministre en visite au Kasaï Central, l'a dit le week-end à Kananga. D'après David Chilumba Mutombo, les fonds pour la construction d'une usine d'eau sont déjà disponibles et c'est le plus grand projet parmi tant d'autres pour permettre au centre kasaïen d'avoir accès à l'eau potable. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
La bonne nouvelle, c'est que le président de la République nous a donné le pouvoir d'aller chercher les financements. Aujourd'hui, nous avons des très grands projets que nous allons réaliser ici dans la province du Kasaï Central à partir du mois d'août. C'est le plus grand projet de développement que vous n'avez jamais vu dans cette ville depuis des décennies. Voici ce que nous faisons. Une nouvelle usine d'eau sur la rivière Loulou à 85 000 mètres cubes, c'est-à-dire quoi? Deux fois plus grande que l'usine que vous avez à Kanyouk. Nous faisons une prise d'eau sur la rivière Loulou à près de 110 000 mètres cubes jour. Nous construisons une centrale hydroélectrique dédiée à la régie des eaux pour qu'il y ait de l'eau 24 heures sur 24. Plus question de l'eau 3 heures par jour. Construisons 500 km de tuyaux, nouveaux tuyaux, dans la ville de Kananga qui vont dans chaque commune. Un nouveau réservoir de 5000 m3 à Nganza, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Tchikaj, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Lukong, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Ndesha, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Kananga, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Katok. Ça n'a jamais été fait ici.
Retour sur le dossier des lions en cabale qui a défrayé la chronique ce week-end à Lubumbashi. Le cabinet du gouverneur du Haut-Katanga rassure, les quatre lions qui se sont échappés de leur cage du complexe animalier Benjin sur l'axe Lubumbashi-Kasenga ont été retrouvés et neutralisés. Docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, lui confirme qu'il s'agit de quatre lions qui ont été neutralisés. Le point avec Paula Munanga.
Dans un communiqué officiel, le cabinet du gouverneur du Haut-Katanga annonce à l'opinion publique que les quatre lions sont retrouvés et neutralisés ce dimanche par les équipes spécialisées des FARDC, appuyées par les éléments de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Le cabinet du gouverneur précise que ces fauves sont effectivement sortis de leur cage, mais sont demeurés au sein du complexe animalier Benjin. Il rassure que les quatre animaux sont capturés et aucun incident n'est déploré. La situation est maîtrisée et le gouverneur du Haut-Katanga invite la population à vaquer librement à ses occupations habituelles. Par contre, le docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, annonce que ces quatre lions qui ont été appréhendés, lui et son équipe sont allés à la recherche des fauves. Ils ont réussi à les capturer à l'aide des produits qui ont permis de les calmer. Rappelons que ces fauves se sont évadés du complexe animalier Benjin samedi dernier. Cette situation a provoqué une psychose dans la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, une nouvelle attaque dans la région de Kayes a visé une entreprise chinoise samedi 24 mai. Après le nord et le centre, les djihadistes mènent de plus en plus d'opérations dans cette région de l'ouest du Mali, frontalière avec le Sénégal. L'entreprise chinoise Covec construit actuellement la route Kayes-Diema dans l'ouest du Mali.
L'invité.
Bonne nouvelle pour la province du Maniema. La Banque mondiale accepte d'accompagner cette province dans la mise en œuvre du projet Encore du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Projet qui consiste à améliorer le recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC. Annonce de Madame Ruxandra Bourdechou, spécialiste principale en gouvernance à la Banque mondiale lors de son séjour au Maniema. Elle s'entretient ici avec Florence Kizalunga. Suivez.
Madame Ruxandra Bourdechou, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
La Banque mondiale accepte d'accompagner la province du Maniema, c'est ça?
C'est vrai, nous sommes ici avec des bonnes nouvelles. Nous sommes dans le processus de faire les diagnostics et voir les besoins d'assistance technique, d'équipement en matière de gouvernance que nous pouvons appuyer sur le projet Encore. La Banque mondiale a un portefeuille de presque 9 milliards de dollars en RDC. Le projet encore, c'est les projets dans le secteur de gouvernance, le secteur de réforme. Il appuie les réformes en matière de finances publiques, spécialement l'augmentation de la collection de recettes. Et sous le projet encore, nous travaillons avec 4 provinces pour le moment. Et au mi-parcours, nous avons pris la décision d'inclure 3 provinces plus, Maniema, Équateur et Congo central.
À quand les débits effectifs du projet dans la province du Maniema?
Oui, alors comme je disais, nous sommes dans le processus de faire les diagnostics pour voir les faiblesses comme les points forts en matière de chaîne de la dépense, le processus budgétaire, collection des recettes, en matière de finances publiques. Discuter ces diagnostics avec Son Excellence, le gouverneur, le ministre de Finances, le ministre du Budget, les parties prenantes, accorder une feuille de route pour les prochaines étapes. Nous avons aussi les processus d'approbation interne à la Banque mondiale et nous sommes en cours de préparer la visite de notre directeur des opérations dans la Banque mondiale, Albert Zefak, qui a souligné qu'il faut vraiment accélérer ce processus et les réformes en gouvernance que nous venons de soutenir avec le projet.
Le portefeuille de la Banque mondiale pour cette année 2025 est d'environ 9 milliards de dollars, comme vous l'avez dit. Comment alors faire bénéficier la province du Maniema des fonds de la Banque mondiale à partir de 2026 pour financer des projets des infrastructures, santé, éducation?
Nous sommes ici pour nous évoquer en matière de gouvernance, finances publiques. Nous n'avons pas décidé le mot spécifique sur le projet encore. Nous sommes en processus de faire la révision MICA parcours et discuter avec le gouvernement de RDC sur un possible financement additionnel. Alors, c'est tôt de parler des mots exacts, mais je voudrais souligner qu'avec une forte gestion de la finance publique, ça va aider à améliorer l'espace fiscal pour faire des investissements dans l'infrastructure et pour améliorer les services de base dans les secteurs de santé, au secteur social, éducation. Alors ça, pour moi, va aider beaucoup à donner des outils aux autorités locales pour travailler sur tous les secteurs que vous avez mentionnés.
Alors, le directeur des opérations de la Banque mondiale va-t-il répondre positivement à l'invitation du gouverneur de la province du Maniema lui adresser?
Bon, je peux vous partager des très bonnes nouvelles. Hier soir, j'ai discuté avec lui. Il a accepté positivement cette invitation. Il est très content de venir ici prochainement et voir les réalités sur place de la province. Et il a souligné que c'est très important que nous faisons les réformes en façon urgente. Nous accélérons ce travail.
Comme c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous dites à la population du Maniema qui vous écoute?
Vous devez avoir du courage et soutenir l'engagement des autorités. La gouvernance, les réformes de finances publiques, c'est quelque chose de très technique, mais il y a un impact direct pour la population quand il y a la volonté politique avec transparence, avec de bonnes gestions pour améliorer la vie de chaque jour. Alors bon courage et comptez sur les autorités.
Madame Roussandra Bourserkou, merci.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Polydor Basunga. Bon après-midi à toutes et à tous.